Europe 1.
Europe 1. 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage, l'affrontement quotidien des meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G. Et justement, Eva, accueillons sans plus tarder nos deux ultimes concurrents du jour. Le premier a profité du confinement pour se constituer une retraite complémentaire en devenant gourou. Il est désormais à la tête d'une secte réunissant une vingtaine de fidèles. On le surnomme le Raël de Malakoff.
Les Malakoffio vous apportent joie et paix. Bonjour à tous.
Bonjour à toi, cher Malakoffio. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, salut à tous.
J'étais persuadé que vous parliez d'Alain Sirou, je ne sais pas pourquoi.
Je vous ai surpris.
Oui, vous m'avez surpris. Alors, vous arrivez encore à me surprendre.
Ce n'est pas l'expert musique qui nous rend visite aujourd'hui, mais l'ancien correspondant d'Europe 1 à New York. À l'époque, vous étiez fan de Jimmy Fallon et cette passion n'a fait que croître avec l'éloignement.
Oui, je vais vous parler du Mathieu Noël américain.
C'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs.
The American Mathieu Christmas.
Of course, of course.
Jimmy Fallon, et vous verrez, on n'est pas loin de la musique. Ouais. Il a de grands talents ce
oui,
garçon.
Oui, il est bon aussi en musique ce jeune. C'est incroyable.
Oui, il sait tout faire.
Face à vous, Jean-Philippe, par la magie combinée de la fée électricité et du téléphone, il est avec nous en duplex de sa maison du Perche. Alain Sirou est à la fois le consultant scientifique d'Europe 1 et l'amant de Farah Kessri, notre vétérinaire. Oh, d'ailleurs, Alain a gaffé l'autre jour en appelant Farah, il est tombé sur son mari.
Et on voit bien qu'il est vénère le gars, parce que vraiment...
En même temps, bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Aujourd'hui Alain, c'est peut-être le plus important de tous les sujets que vous ayez jamais traités dans cette émission, puisque vous vous intéressez à ces objets, je dirais même ces foutus objets qui disparaissent. Clés, chaussettes, mais où vont-ils? 30 ans que je me pose la question.
Ben oui, dans tous les domaines, vous savez, de la curiosité, il y a des sujets que moi j'appelle des sujets bonbons. Vous savez qu'ils sont à la science l'équivalent de la première gorgée de bière à la littérature. Donc, ces objets du quotidien qui disparaissent, à la fois les petites cuillères, les chaussettes et bien d'autres choses, eh bien, sont aussi sujets d'enquête et je dirais que c'est fascinant.
Vous perdez souvent des chaussettes, vous?
Eh ben oui, je comprends toujours pas.
Ben oui, ouais. C'est vrai que moi, nous non plus, on en est ben tous oui. Là et on veut des réponses scientifiques. D'ailleurs, je dirais même que c'est plus urgent que le vaccin contre le Covid.
Alors, oh non, n'importe quoi.
Les morceaux d'anthologie de Jimmy Fallon, le roi des late shows américains, ou la recherche du slip perdu avec Alain Sirou. Quel sujet vous passionnera le plus? Réponse juste avant 18h comme d'habitude. Mais là, tout de suite, c'est aussi devenu une habitude.
Vous perdez un slip, vous?
Oui, je perds des slips aussi, oui.
D'accord,
oui.
Okay.
Ah oui, pour moi, ça fait partie des objets égarés, oui.
Des objets égarés.
Je rachète toujours des caleçons tout le temps. Il y en a bien qui disparaissent. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi ils se volatilisent. Ils se volatilisent parce que volatilisent.
Oui,
ça n'a pas de sens.
Dire.
Cette émission est vraiment difficile pour moi.
Il y a des explications plus faciles aux slips perdus qu'aux chaussettes orphelines, hein, quand
c'est
même.
C'est vrai que les chaussettes, c'est un mystère
encore
plus épais.
Okay.
Mais nous laisserons Alain le désépaissir tout à l'heure.
D'accord. Avec Sébastien Bordonnam, on vous a aussi trouvé quelques séquences étonnantes en dehors de cette émission. C'est sur les réseaux sociaux. Alors au menu de ce mix, écoutez bien, des nouvelles de Sheila qui organise quasiment tous les jours des discussions avec ses fans sur Instagram. Les dernières mesures d'hygiène à respecter dans les entreprises de Groland depuis le déconfinement. Et je vous propose de débuter avec un extrait d'un reportage diffusé sur France 2. Hélène, elle a 103 ans et elle a vaincu le coronavirus.
Ça devait être un simple au revoir pour Hélène François. Ce sera une surprise. Médecins, infirmières, kinés, ils sont tous venus l'accompagner pour sa sortie d'hôpital. Cette patiente centenaire, contaminée par le Covid-19, est guérie. Sa voisine a imaginé le pire la concernant.
Oh ma petite dame, je suis contente, j'étais triste, je ne vous ai pas vu.
Vous voulez un petit apéro?
Oui.
Je regarde parce que j'ai des questions qui arrivent. Donc bah, bonjour, c'est MTV qui me fait un petit bonjour. Bon, vivante, bah oui, je suis vivante. Ils n'ont pas eu ma peau.
Déconfinement oblige, la vie en entreprise a enfin repris. Mais attention, rien ne sera plus comme avant. Comme le montrent ces pictogrammes apposés dans tous les locaux des sociétés, de nouvelles règles doivent désormais être adoptées. Pour éviter les contacts, les employés devront rester assis à leur bureau toute la journée. Pour éviter la transmission du virus, les employés sont invités à uriner à leur bureau dans une bouteille en plastique. Pour éviter les transports en commun, il est impérativement conseillé aux employés de rester dormir dans l'entreprise en posant la tête sur leur bureau et en utilisant un oreiller lavable et réutilisable 6 fois. Avec tout ça, on se dit que c'est peut-être pas les Chinois qui ont inventé le virus, mais ce serait peut-être bien les patrons.
C'était un extrait de Groland, voilà. C'était excellent. Le mix du jour.
C'était un très très bon mix, Eva. Je crois
concocté avec Sébastien Bordonnave.
On peut le dire, et ouais. Je suis désolé, mais je crois que je vais réutiliser le son. Comment s'appelle la doyenne, la dame?
Hélène.
Hélène, quand elle dit prends un petit apéro, ça va être un nouveau son pour moi et qui vous sera
attribué.
Apéro.
C'est tellement vous, Eva.
Oui, c'est vrai.
C'est tellement vous.
J'aimerais bien aller jusqu'à 103 ans et boire encore des apéros.
Dans quelques années.
Ouais.
Vous aimez rire, mais vous aimez aussi retrouver vos chaussettes. Surtout, vous aimez les teasers qui ont du sens comme celui-ci. Restez avec nous.
Europe 1.
Vous connaissez Jimmy Fallon ? Pas assez, à mon avis. Heureusement, le plus américain d'entre nous, John Philip Ballas, arrive pour vous mettre à jour sur le phénomène Fallon. Et vous pouvez faire confiance à Jean-Phi en matière artistique, il a des goûts très sûrs. Il nous l'a encore prouvé la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ?
On pourrait faire une chorale. Hein.
Non. Non, à tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Souvent imité, jamais égalé.
C'est vous ?
Non, c'est Jimmy Fallon. Son late show fait un carton année après année, Eva, pour nous parler de ce phénomène de l'infotainment, ce showman qui ne laisse rien au hasard, un journaliste qui justement fait preuve lui aussi d'un grand perfectionnisme. Un pro méticuleux qui peut passer 10 minutes rien qu'à trouver le bon ton pour son oui. Car oui, tous les oui ne se valent pas.
5, 4, 2, 1 et puis 0. Oui, et on va re... Oui, et on va revenir... Oui.
Oui, Jean-Philippe Ballas. Oui, vous nous parlez de votre idole, Jimmy Fallon. Oui ou non?
Oui, Jimmy Fallon, il est un petit peu plus vieux que moi, il a 45 ans. Et donc tous les soirs, il anime le Tonight Show sur NBC. C'est pas un inconnu, il a fait ses armes dans le Saturday Night Live, émission culte pour tous les humoristes américains. Je vais surtout vous parler du musicien, du chanteur qui fait des reprises assez dingues avec le groupe de l'émission The Roots. C'est pas n'importe qui non plus, The Roots. Et voici le dernier tube qu'ils ont repris, ça circule pas mal sur les réseaux en ce moment. Je précise que la séquence est réalisée en confinement, c'est-à-dire que chaque musicien est chez lui. Je précise qu'il joue avec des ustensiles de cuisine pour l'essentiel, donc des casseroles. Sachez enfin que la version originale est chantée par Freddie Mercury et David Bowie. Est-ce que c'est pas un peu de la balle ?
Ah, c'est génial.
Under Pressure, chanson très difficile à apprendre en général. Et c'est pas tout, parce que dans son émission, Jimmy Fallon, il a aussi un groupe vocal, vous les connaissez peut-être, c'est les Ragtime Girls, a cappella. Il a, dans ces circonstances, un canotier et un costume à rayures. Sauras-tu reconnaître la star qui les accompagne ?
You don't have to put on that red, red light. Roxanne !
Sting
lui-même.
Ah oui, mais j'ai cru que c'était un décalage. Non, c'est Sting qui chante.
Tout ça en confinement, c'est quand même une performance incroyable.
Ça me fait penser à quelque chose. Je me dis, quand on faisait l'émission en duplex, chacun chez nous, je me disais, on est quand même fort, on arrive quand même à se coordonner, tout ça. Puis ensuite, j'entends ça. Et je me dis, mais on était vraiment des brêles en fait.
Voilà, c'est ça.
C'est incroyable.
Est-ce que vous en voulez encore ?
Ah oui,
encore.
Toujours
encore.
Dans le registre a cappella, toujours avec Jimmy Fallon. Alors, ça, c'était il y a quelques années. C'était avec le casting des acteurs de Star Wars, dont Harrison Ford, s'il vous plaît. Et c'est la marche de l'Empereur.
Génial.
Je pense qu'il y a un petit peu d'autotune hein, pour que ça soit bien juste.
Parfait, ouais.
Mais c'est quand même très très synchro. Et c'est pas tout, parce que sachez que dans son émission, Jimmy Fallon, il fait aussi des imitations. Par exemple, il sait faire Bob Dylan.
Charles in charge of our days and our nights. Charles in charge of our wrongs and our rights.
Et visuellement, c'est aussi impressionnant. Il joue même de l'harmonica, hein. Vous allez peut-être l'entendre derrière moi. Et fait aussi Jim Morrison avec les Doors.
Butterfly in the sky. I can go twice as high.
Alors là, pour le coup, il a des cheveux longs et puis le petit jean en cuir qui va bien. On va monter un petit peu en grade dans la dinguerie, parce que parfois il chante aussi dans le métro new-yorkais, et puis il emmène des groupes avec lui pour jouer incognito dans le métro. Alors pour ceux qui ont des doutes, c'est bien la voix de Bono et c'est bien U2 qui l'a embarqué dans le métro pour faire la manche. Alors au début, ils sont grimés et puis les gens s'arrêtent, les gens les reconnaissent et puis ils enlèvent leurs moustaches, leurs casquettes et les gens se retrouvent nez à nez dans le métro new-yorkais avec U2. C'est quand même quelque chose. On va continuer le feu d'artifice, parce que parmi ses invités, Jimmy Fallon, il a fait aussi jammer parfois des personnalités, mais alors de tout premier plan, genre le prédécesseur de Donald Trump.
It's been an honor and a privilege to serve as your president over the past 8 years.
C'est Barack Obama qui se prête au jeu de Jimmy Fallon.
Qui veut slug jammer avec Jimmy Fallon et son groupe The Roots. Enfin, le bouquet final, on va terminer avec la séquence qui est la plus chère à mon cœur, parce que dans son émission, il y a eu aussi un certain Paul McCartney, Jimmy Fallon. Alors, Paul McCartney qui avait écrit il y a quelques années Yesterday. Alors, ce qu'on sait un peu moins, c'est que la version originale de Yesterday, le premier texte,
oui, c'était pas Yesterday.
C'était Scrambled Eggs, œufs brouillés. Bébé, j'adore tes jambes, mais je préfère les œufs brouillés. Sauf qu'on ne l'a jamais entendu, cette version originelle de Yesterday. Et bien, Jimmy Fallon l'a fait dans son émission avec Paul McCartney.
Scrambled eggs. Oh my baby, how I love your legs. Not as much as I love scrambled eggs.
Et alors, je peux vous dire que quand on est fan des Beatles, c'est une drôle d'émotion quand même d'écouter cette version-là.
Et dites-moi Jean-Philippe, il était un peu préparé pour le confinement, notre ami Fallon, parce que ça fait très longtemps qu'il faisait déjà les trucs chez lui avec les casseroles.
Et même avec des instruments de classe, des instruments de musique, des petits xylophones. C'est vrai qu'il est assez rompu à l'exercice. Là, quand même, en quelques minutes, vous avez écouté U2, vous avez écouté Barack Obama, vous avez écouté Sting, et vous avez écouté même la voix de Bob Dylan et celle de Jim Morrison.
Et puis, alors, si je peux me permettre, il est hilarant, Jimmy Fallon, en ce moment, parce qu'en période de confinement, donc il est chez lui, mais il y a sa femme et ses deux filles qui participent à l'émission tous les jours, et elles ont autant d'humour que lui, et c'est peu dire quand même. Hein.
C'est très drôle parce qu'il fait ses petits sketchs d'intro avec ses filles, dont il a un combi dans le jardin, un combi Volkswagen, donc il fait des vannes qui sont assez drôles, sauf que ces gamines ne rient pas
du tout.
Chers auditeurs, parfois on a des journalistes qui portent des sujets, on sent qu'ils s'en foutent, ils sont là pour faire le job, là on déborde complètement cette séquence parce que Jean-Philippe est tellement fan de Jimmy Fallon qu'il pourrait vous en parler jusqu'au dîner. Jean-Philippe, ça suffit, merci beaucoup, c'était une belle chronique.
J'ai l'impression que cette expérience vous a un peu transformé.
Bon, n'exagérez pas. Parfois, en consultant le programme télé ou en zappant au hasard sur les chaînes de la TNT, vous vous dites, comme Jean-Paul Belmondo,
c'est dégoulinant de conneries.
Épongez tout ça avec les conseils d'Eva Rock qui chaque jour vous donne les clés d'une soirée télé réussie. À tout de suite.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Son parcours exemplaire des favelas de Nice aux cimes de l'audiovisuel français prouve que la méritocratie a encore de beaux jours dans notre pays. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Eva Rock.
Née prématurée dans une famille modeste, devenue aveugle, couveuse, et qui va malgré tout bouleverser le monde.
Mais ne faites pas trop, vous en faites toujours trop. Eva, vous bouleversez nos soirées télé et c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Alors écoutez, le Festival de Cannes revit sur nos écrans de télé cette semaine. Ce soir, par exemple, Canal Plus propose une nuit canoise avec la rediffusion de films présentés lors de la quinzaine ces dernières années. À 21h notamment, je vous recommande grandement Douleur et gloire de Pedro Almodovar. Film magnifique, on est d'accord, Mathieu.
Film sublime.
Sublime.
Et je dirais pas passé inaperçu parce qu'on en a beaucoup parlé.
Il n'a pas eu le succès.
Il n'a pas eu les récompenses.
Et les récompenses.
Je ne sais plus à quel moment c'était. Si, c'est au moment où tout le monde s'est emballé pour Parasite. Parasite, toutes les récompenses. Douleur et gloire.
Formidable le film. Au moment de sa sortie, beaucoup de critiques ont décrit ce film comme l'œuvre la plus personnelle du cinéaste. Et c'est vrai que le personnage principal, Salvador Milo, s'impose comme un double d'Almodovar en fait. Hein, Salvador, c'est un réalisateur en panne d'inspiration, au corps qui lâche, il a souvent mal à la tête, des maux de dos, il s'étouffe régulièrement. Et la restauration d'un de ses films va venir bousculer un peu son quotidien et sa désespérance. Il retrouve son ancien acteur avec qui il était fâché depuis 32 ans. Il va sombrer temporairement dans l'héroïne, replonger surtout dans ses souvenirs d'enfance auprès de sa mère dans cette maison au mur blanchi à la chaux. C'est absolument sublime à l'image. Ce film est une merveille, c'est un moment de douceur, d'intimité dans l'univers d'Almodovar, un moment de poésie. Il retrouve d'ailleurs ses comédiens fétiches, dont Penélope Cruz et Antonio Banderas, exceptionnels dans le rôle de Salvador, qui lui a d'ailleurs valu si justement le prix d'interprétation à Cannes.
Et alors, pour ceux qui auraient déjà vu le film et qui ne voudraient pas le revoir,
prenez le temps de découvrir une pépite. C'est sur le site opéra-de-paris.fr. C'est un film qui est mis à disposition gratuitement jusqu'au 24 mai, un documentaire de Jean-Stéphane Bron qui s'appelle tout simplement L'Opéra. Le réalisateur a tourné pendant un an dans les coulisses de l'institution, mais il a tout filmé, chaque étage, ceux de la direction comme le PC de sécurité, la régie et les salles de répétition, les réunions au sommet ou encore la sortie de scène d'une danseuse exténuée. C'est 1h40 d'intrusion dans un univers que nous connaissons mal, un lieu de création et de pouvoir, un lieu encore trop fermé. Écoutez juste cette réflexion du patron de l'Opéra de Paris, justement, Stéphane Lissner.
Avec les prix qu'on a, est-ce qu'on est convaincu qu'on a
une partie du public qui n'a pas les moyens de venir à l'Opéra de Paris. Oui. Et moi, je suis désolé.
Voilà, là, on était dans la Réunion. Alors, trop élitiste, l'opéra, peut-être, mais peut-être pas. Parce que dans une salle à côté, c'est l'Effusion. Il y a des enfants de CM2 qui viennent de terminer leur dernière répétition avant leur concert. Depuis 3 ans, ils apprennent à jouer du violon grâce à un programme mis en place par l'opéra. Petite leçon entre un des gamins et sa tutrice, tendez bien l'oreille.
Tu sais, après, tu... ça va t'accompagner pendant toute ta vie. Tu vas aimer la musique et tu vas comprendre la musique. Tu vas pouvoir rentrer dans la musique parce que tu en as fait. Alors je crois qu'il faut prendre cette opportunité, tu vois, parce que c'est vraiment une entrée dans un monde magique. Tu sais, parce que tu es doué. Hein? Alors il faut en profiter. Continue au collège.
Un monde magique et un film sublime, construit comme un opéra, avec sa dramaturgie imposée par les événements, le départ de Benjamin Millepied, les attentats du Bataclan, un marathon qui déclare forfait à quelques jours d'une représentation, ou encore une grève des salariés. Et dans ce Maelstrom, eh bien, des moments de magie, comme la voix d'un jeune russe de 21 ans, futur star du lyrisme, Mireille Timoshenko. Certaines scènes sont bouleversantes. C'est un documentaire qui a su s'affranchir d'une voix off pour ne s'attarder que sur ceux qui font de ce lieu un monde à part. Et c'est à voir sur le site opéradeparis.fr. Et je crois que Jean-Philippe Ballas partage cet avis.
I approve this message. Non, c'est remarquable. C'est un super documentaire. Vraiment.
1h40 de
j'ai
bonheur.
J'ai pas de mal à croire que l'univers de l'opéra se prête à quelque chose qui soit addictif à regarder, parce qu'il y a toute la dramaturgie dans l'opéra. Il y a la rivalité,
le
stress,
ça.
La compétition, ouais. Le physique, enfin il y a tout. Donc merci beaucoup Eva Rock pour ce double conseil excellentissime aujourd'hui.
Europe 1.
Combien de fois, au moment de partir à la hâte de chez vous, parce que vous êtes déjà en retard, vous avez fait 3 fois le tour de la maison à la recherche des clés en vous répétant
« C'est pas possible d'être aussi con ».
Vous n'êtes pas fou. Si certains objets comme les clés ou les chaussettes ont tendance à disparaître, il y a une explication scientifique derrière ce phénomène. Alain Sirou nous le dévoile juste après Adèle. Chasing Pavements sur Europe 1. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know. If I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my fate? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Yeah. Should I give up? Should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Chasing Pavements, vous vouliez faire un commentaire, Eva?
Celle-là, je l'aime bien, d'Adèle.
Ah, celle-là, voilà. Celle-là, vous l'aimez bien, et les autres, non?
Si, et certaines, mais pas tout. Il y en a que j'ai trop entendu.
Chasing Pavements, comment vous le traduiriez?
Ah, je ne sais pas du tout.
Chassant les trottoirs, Jean-Philippe Ballas, vous qui étiez correspondant d'Europe 1 à,
Oui, on peut dire ça comme ça.
Chassant les trottoirs, c'est mieux en anglais.
Hein. Ah oui, c'est mieux
à
en anglais.
Que ce soit poétique. La licence poétique, probablement. De poétique la licence. 16h,
18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il est le plus déjanté des scientifiques français. Comme tous les chercheurs, son carburant, c'est la passion de la découverte, l'obsession de la connaissance.
Ou de gnôle, un petit coup de gnôle aussi. Oui. C'est vrai que c'est un peu
gnôle. Et un peu de gnôle aussi. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Cet après-midi, Alain, vous allez nous apporter enfin une explication scientifique à un mystère qui nous concerne tous. Pourquoi les clés disparaissent-elles et pourquoi tant de chaussettes finissent-elles orphelines?
Mon sujet aujourd'hui, c'est vraiment objets inanimés. Pourquoi est-ce que vous faites la malle? C'est pourquoi est-ce que des objets disparaissent? Et j'ai pris deux objets qui sont l'objet d'études scientifiques et qui sont absolument extraordinaires. C'est les petites cuillères et les chaussettes orphelines. Alors, pour les petites cuillères, ben, comme pour les chaussettes d'ailleurs, mais d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que notre intuition que les petites cuillères disparaissent est une réalité? Et là, c'est extraordinaire.
Quand on en a 8 et quand on n'en a plus que 5, on sait bien qu'elles ont disparu.
Oui, concrètement.
Alors, c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai tout le temps, vous voyez? C'est ça le sujet, quoi, en fait. Les études scientifiques ont montré que finalement, les petites cuillères disparaissent assez facilement dans les collectivités et aussi dans les maisons, mais surtout dans les collectivités. Et en particulier, des chercheurs ont d'abord démontré la quantité. Et ce n'est pas une plaisanterie, Mathieu. C'est-à-dire que les objets qu'ils avaient surveillés, les petites cuillères, 80% d'entre elles avaient disparu au bout de 3 mois. Vous vous rendez compte? 80%
d'entre
elles. Encore
chez moi, ça. 80%? Mais parce que
exactement, les vols. 80% des petites cuillères avaient disparu dans les cafétérias qu'ils qualifiaient carrément de triangle des Bermudes, des petites cuillères. Alors, tout en remarquant que c'était la même chose qu'elles soient en plastique ou en argent, c'était pareil. Donc, l'idée, c'était que finalement, il fallait renouveler très régulièrement ce stock. Ça, c'est vraiment la première observation scientifique.
Mais pourquoi elles disparaissent, Alain? On veut savoir, les scientifiques,
alors,
qu'est-ce qu'ils disent?
Il y a deux réponses. La première, c'est que c'est un phénomène universel. Et la deuxième, c'est que si on admet que les petites cuillères ne disparaissent pas pour faire fuir l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les objets pourraient avoir peur des hommes et finalement être obligés de disparaître. Alors,
Alain,
on est obligé d'admettre.
Allonger la gnoule avec un peu d'eau quand même, parce que là.
On est obligé d'admettre qu'il se passe des choses extraordinaires autour de la machine à café. C'est-à-dire que la machine à café, c'est l'endroit où apparaissent, disparaissent des idées, c'est là où naissent des entreprises, c'est là où finalement se nouent des relations. Et ben, le mouvement naturel, quand on pense, quand on réfléchit, quand on aime, c'est d'oublier les petites cuillères. Elles partent à la poubelle, tout simplement. Elles sont ignorées, jetées. Elles disparaissent sans même qu'on s'en rende compte, tout simplement parce qu'on pense à autre chose et elles n'existent plus. Ça, c'est la raison pour les petites cuillères. Pour les chaussettes, d'abord les faits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors, très clairement, on s'en rend compte chez nous, c'est sûr. Et les scientifiques qui ont fait de nombreuses études sur le sujet confirment aussi que finalement elles disparaissent de façon extrêmement importante. D'ailleurs, plus le nombre de personnes est important dans un foyer, plus le nombre de lavages est important, plus elles disparaissent. Et tenez-vous bien, là ce sont des études anglaises qui concernent à peu près 2000 personnes pendant 3 ans. Chaque personne perdrait en moyenne 15 chaussettes par an. Ça fait 1264.
Ça me paraît normal, oui.
Ah,
c'est ça.
Hein. Mmh. Ouais, ça fait 1264 par, dans une vie. C'est-à-dire quand même 3200 euros au bout du compte.
Est-ce qu'elles ne sont pas aspirées par la machine à laver? Moi, c'est ma théorie. Elles sont quelque part.
Sinon, vous auriez bouché votre machine.
Les observations montrent plusieurs choses. Tout d'abord, il y a celles qui chutent derrière un radiateur pendant leur séchage. Ah, les radiateurs sont des vrais triangles des Bermudes. Hein. Vous retrouvez effectivement des araignées qui habitent dans les chaussettes.
Je vais jeter un coup d'œil de ce côté-là.
D'autres sont égarés dans des meubles de rangement. Là, je peux vous dire que quand on déménage en particulier, on retrouve des tas de chaussettes dont on ignorait qu'elles étaient encore, je dirais, présentes.
Vivantes.
Elles se cachent, quoi, en quelque sorte. Vous avez une troisième raison, qui est finalement un mauvais type de lavage. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des chaussettes blanches que vous lavez avec du linge couleur, elles se transforment, elles prennent une autre couleur. Et elles se sont séparées de leur boîtier.
C'est vrai, c'est terrible. Elles deviennent un peu roses. Si vous les mettez,
Fait,
on ne sait plus comment les associer, puis on finit par les perdre.
Voilà. Exactement. Et puis enfin, vous avez celles qui s'envolent après l'étendage, celles qui sont mises dehors, et puis il y a un coup de vent ou un animal qui passe. On a vu régulièrement des oiseaux s'envoler avec des chaussettes pour aider à faire des nids.
On a vu des oiseaux s'envoler avec des chaussettes. Mais c'est quoi votre gnôle? Vous nous donnerez la marque? Vous le faites vous-même? Vous êtes un bouilleur de cru? Comment ça se passe?
Le Calvados, vous savez, dans le Perche, c'est assez connu. Hein. C'est
oui,
très
Je vois que avec modération, Alain.
Je suis en train d'imaginer les oiseaux avec la.
Qui s'envolent avec des chaussettes. Si vous voyez un oiseau avec une chaussette dans le bec, envoyez-nous une photo europe1.fr parce que vraiment. Oui, Alain.
Ce qu'il faut marquer, c'est que toutes ces études, en particulier les plus documentées qu'on trouve sur les chaussettes, ont été sponsorisées par la marque Samsung, qui commercialisait une machine à laver avec un hublot spécial pour savoir où passer les chaussettes pendant le lavage.
Donc, voilà, vous voyez que... Parce qu'il y avait des gens qui doutaient.
Exactement. Donc c'est aussi un argument commercial, mais quand même, au bout du compte, vous vous rendez compte que, objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Eh bien, peut-être parce qu'elles sont capables de s'envoler quand on ne les regarde pas.
Oh, il termine par une note poétique. Merci Alain Sirou. Belle chronique. Néanmoins, on connaît votre fair play. Un petit mot sympa pour Jean-Philippe Ballas.
Asshole.
Oui, il dit qu'il vous adore, Jean-Philippe, vous adore.
Europe 1.
Restez avec nous dans quelques instants. On ouvre l'album Souvenirs des invités. Aujourd'hui, retour sur notre interview de Samuel Le Bihan.
Son costume impeccable, ses bongos, son harmonica, on le présente comme un phénomène.
Oui, bon, c'est un sacré acteur, c'est sûr, et aussi un type en or. À tout de suite.
Europe 1. 16h, 18h,
l'équipé sauvage.
L'équipé sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
C'était bien, c'était chouette quand les invités venaient faire la fête. Ils reviendront bientôt. En attendant, il nous reste Eva nos souvenirs. Le 28 janvier dernier, on recevait un comédien extrêmement attachant, Samuel Le Bihan, qui, de fil en aiguille, nous avait parlé à un moment de sa passion pour les trains de nuit, dont on déplorait la progressive disparition. À cette occasion, il m'avait parfaitement percé à jour. Alors moi, les trains de nuit, j'aimerais vraiment faire des trains de nuit. Je trouve que c'est une super solution. C'est pratique parce qu'en fait, c'est agréable, non ? C'est ta petite cabine et tout ça.
Mais l'autre, il voyage qu'en jet, attends.
Avec un peu de personnel, quoi, un truc très simple.
Pas enfin, rien, mais un majordome.
Oh, et si j'étais riche.
Minimum, quoi, bah les trains de nuit. L'éminemment sympathique Samuel Le Bihan était donc notre invité le 28 janvier dernier. Bonjour Samuel Le Bihan.
Bonjour.
Vous l'avez compris, on est tous ravis de vous recevoir dans l'équipe à des degrés d'enthousiasme différents, parce que certaines sont quand même au bord de la syncope, surtout en régie. Vous nous présentez la sortie en poche d'un roman très autobiographique, on va y venir, il s'intitule « Un bonheur que je ne souhaite à personne », l'histoire d'une maman qui se bat pour aider son fils autiste à s'intégrer. Il y a évidemment beaucoup de vous dans ce livre, puisque vous en parlez librement, vous avez vous-même une fille autiste, donc c'est votre histoire, mais romancée.
Non, c'est pas mon histoire.
Il y a des choses que vous avez vécues.
C'est l'histoire de ces mamans qui se battent, et donc j'avais... lu des articles dans les journaux et j'avais été extrêmement impressionné. Ces mamans qui sont au dégru. On
se souvient des images.
Et voilà, donc je me suis dit, il y a une belle histoire à raconter derrière qui permet à la fois d'apprendre ce que c'est l'autisme et en même temps de vivre des vraies émotions sur une femme seule avec ses enfants qui doit se battre pour ses enfants et puis qui se pose aussi des questions sur l'amour, sur c'est quoi la vie, c'est quoi ce qui lui est donné dans cette société, c'est quoi sa place et c'est quoi cette quête du bonheur. Et la question du bonheur est centrale dans le livre. Et puis j'avais envie de parler d'une femme guerrière, une espèce de lionne qui se bat pour ses enfants et qui se transforme au moment où justement elle découvre que ses enfants sont fragilisés. Ça m'émouvait énormément.
Dans cet ouvrage, vous racontez le désarroi et le combat d'une mère qui apprend que son fils est autiste et qui va se battre pour qu'il ait la vie la plus normale possible. C'est quoi déjà pour un enfant autiste la vie la plus normale possible ? Il ne faut pas souhaiter qu'il soit dans une institution particulière, il faut qu'il soit déjà en classe normale. C'est quand on est parent d'un enfant autiste, c'est déjà ce qu'on désire le plus.
En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'un enfant autiste qui est au contact des enfants, ce qu'on appelle typiques, des personnes typiques, a plus de chances d'évoluer, d'apprendre un certain nombre de choses, surtout dans les interactions sociales, et puis dans le langage, dans les demandes, dans les reconnaissances d'émotions, de toute une palette de choses qu'on a normalement à notre naissance et qu'il faut qu'il apprenne. Je pense que c'est aussi extrêmement enrichissant pour les enfants aussi dans l'école, d'être au contact de la différence.
Un bonheur que je ne souhaite à personne, l'histoire fortement inspirée quand même de votre vie, puisque vous avez vous aussi un enfant autiste, une fille. Vous avez parlé d'elle l'autre jour sur Instagram, ça vous arrive de temps en temps, et le message là était vraiment très très mignon, très touchant. C'était une photo au ski, et vous disiez: comment imaginer qu'un jour cette petite fille chausserait des skis, elle pour qui monter un escalier était une opération compliqué. Je sais que pour toi, chaque apprentissage est bien plus difficile et pourtant, tu n'hésites jamais. C'est des moments qui doivent être magiques quand on vit une situation compliquée comme ça et qu'on se retrouve au ski avec sa fille.
C'est surtout, on démarre de tellement loin et on se rend compte que les méthodes éducatives, là, ça a été ce qu'on appelle la méthode ABA, c'est méthode comportementaliste. qui ont été assez décriés en France pendant très longtemps et qui aujourd'hui commencent à être intégrés et qui lui ont permis de complètement changer. Ça a été miraculeux. Et je suis toujours extrêmement impressionné. Alors, pour elle, c'est plus difficile. Elle doit tout apprendre, même des émotions du visage. Elle ne sait pas les reconnaître. Et elle a appris à reconnaître un visage triste, un visage gay. Mais à force de je récompense tous ses efforts, je célèbre toutes ses victoires et je l'encourage tout le temps lorsqu'elle a du mal. Et on franchit des barrières insensées, quoi. Et donc aujourd'hui, elle peut faire du ski. C'est inimaginable parce que le cerveau, il dirige le corps aussi. Donc évidemment, l'équilibre, elle peut pas faire de trottinette, par exemple. Mais peut-être que maintenant, elle pourrait être capable d'en faire. C'est un objet, donc elle voyait d'autres enfants jouer avec. Et elle s'y intéressait, mais arriver à poser une jambe et pousser avec l'autre, c'est déjà une opération assez complexe. Et aujourd'hui, on arrive à faire des choses beaucoup plus... c'est extrêmement émouvant pour moi.
Et est-ce que les choses sont acquises? C'est la question qu'on se pose aussi quand on a un enfant autiste. Est-ce qu'on arrive à acquérir des compétences et on les conserve ensuite? Ou est-ce qu'on peut désapprendre aussi?
Oui, on peut désapprendre, mais...
Mais comme nous, en fait.
Elle a besoin d'être stimulée tout le temps.
En permanence.
Tout le temps, et aujourd'hui, elle demande d'être stimulée. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça devient un jeu, et puis il faut y créer aussi des bons souvenirs. Il faut qu'émotionnellement, on ait envie d'y retourner. Et donc, il faut créer un contexte...
Vous étiez content, elle était contente.
Mais c'était génial, c'était vraiment génial. Et je me dis que voilà, un jour, je vais pouvoir partager ça avec elle.
Vous pouvez nous rappeler quel âge elle a, votre fille?
Maintenant, elle a 8 ans.
8 ans.
Ouais. Europe 1.
À suivre, la rubrique culinaire d'Olivier Poul. C'est souvent le moment de l'émission où je baisse la garde, humoristiquement parlant. Ce moment où, épuisé par près de 2 heures d'antenne, je ne me respecte plus et me laisse aller à des jeux de mots d'un autre âge. Heureusement, dans ces moments terribles de disette comique, je peux toujours compter sur le soutien de ma précieuse Eva Rock.
Il vous faut 100 grammes de petits pois, mais alors de petits pois écossais, c'est-à-dire...
S'ils sont irlandais, c'est grave?
Oh non, mon Dieu, c'est pas possible. Non, elle est très très mauvaise.
Combien vous me mettez? Celle-ci, vous me mettez combien?
Le pire, c'est que ça me fait...
Et oui, ce qui est bien, c'est qu'à ce stade de l'émission, elle est aussi crevée que moi. Tout passe. Délice in extremis, votre recette facile et bluffante, juste après Louis Chélid. Si j'avais su sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est promis, c'est juré, je ne penserai plus à vous. C'est fini, terminé, un point c'est tout. Je ne dirai plus non, mais moi je, avant tout. À partir d'aujourd'hui, je me passe de vous. Vous ne viendrez plus chez moi, je n'irai plus chez vous. Pas de quoi en faire un plat, après tout. L'amour qui dure toujours, c'est parfois un peu lourd. Histoire pour midinette, miroir aux alouettes. Vous tutoyez, c'est dépassé. Et de vous voyez, ça me fait un drôle d'effet. Si j'avais su, si j'avais su que vous alliez à mon insu m'abandonner, je ne t'aurais jamais dit. Jamais dit. Ne plus penser à vous, ne plus vous voir partout, se dire qu'on s'habitue à tout. Je ne dirai plus nous, mais moi je avant tout. À partir d'aujourd'hui, je me passe de vous. Vous tutoyez, c'est dépassé. Et de vous voyez, ça me fait un drôle d'effet. Si j'avais su, si j'avais su que vous alliez à mon insu m'abandonner, je ne t'aurais jamais dit. Jamais dit. Jamais dit. Tu.
Si j'avais su, une nouveauté signée Louis Chédid sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Alors oui, le confinement, cette parenthèse de solitude, de retour à la terre pour certains, a été l'occasion pour beaucoup de se recentrer sur l'essentiel. Mais pour d'autres, qui ont complètement dégivré pendant cette période, il est temps, grand temps, de rentrer à Paris. Je pense bien sûr à notre expert gastronomique Olivier Pouls, qui vit depuis bientôt 3 mois en autarcie, reclus dans un hameau bourguignon, avec pour seule compagnie une bouteille de chartreuse, dans laquelle il tape allègrement chaque après-midi avec le curé du village, l'abbé Bitard. Au programme, sauciflard, pinard, et blague de bon goût comme hier quand Pouls s'est mouché devant l'abbé.
C'est beau comme tout, c'est vert, on dirait de la pistache, mais ça n'en est pas.
Olivier, mais c'est rentré à la maison, Olivier.
Alors vous avez les salutations de mon ami l'abbé qui aimerait venir assister un jour, quand ce sera possible, bien sûr, à l'émission. Il en rêve, il vous écoute toutes les après-midi.
Moi j'aimerais me confesser surtout, j'ai beaucoup de choses.
Eh bien prévoyez qu'il reste 2-3 jours à Paris alors, hein, parce qu'on lui prendra une chambre. Hein, voilà.
Non mais je propose plutôt que Mathieu vienne ici en Bourgogne, je lui prêterai une chambre.
C'est à plus de 100 km Olivier, on ne peut pas, rappelez-vous des consignes.
Oui, on attendra.
Oui.
On attendra.
C'est quoi le dessert du jour
Olivier, on parle, mais finalement on en oublie votre fonction qui est de nous livrer une recette épatante pour le dîner. Et cette semaine, la thématique, c'est les desserts.
Bon, je vous donne un indice. Si je vous dis Proust, vous me répondez...
La madeleine. Bah, oh, quelle culture. Mais parfois, je m'éblouis moi-même.
Incroyable. Alors,
il
des
va
madeleines...
Faire des langues de chat.
Non, on va faire des madeleines d'une gourmandise extrême et d'une simplicité déroutante, figurez-vous. Mmh. Alors, pour les ingrédients, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire des madeleines? 200 g de farine, un sachet de levure, 100 g de beurre, 50 cl de lait et 3 œufs. Alors ça, c'est pour des madeleines de base neutre, on va dire. Mais ce qui est sympa, c'est de leur donner un petit twist, de les aromatiser. Alors, pourquoi pas avec un peu de vanille ou avec la fleur d'oranger, avec des pépites de chocolat ou avec du miel. À vous de jouer. Alors, pour confectionner les madeleines, on va réunir les œufs et le sucre qu'on va bien mélanger ensemble. Il faut que l'ensemble blanchisse. Et ensuite, on va faire fondre le beurre. Et là, il y a une astuce, figurez-vous, qu'on ne vous livre jamais dans aucun bouquin ou dans aucune recette sur Internet, mais qu'un pâtissier un jour m'a donné sous le sceau du secret. Alors, en fait, quand vous faites fondre votre beurre, il faut l'assécher, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'eau, en fait, dans le beurre. Et quand vous le faites fondre, vous voyez, il y a des espèces de petites bulles qui se développent, et ça indique la présence d'eau. Et donc, il faut faire fondre le beurre lentement et longuement, de manière à le débarrasser au maximum de cette eau qui a tendance, une fois qu'elle est incorporée dans la préparation, à donner des madeleines qui sont moins aériennes. Donc attention à ne pas monter trop en température parce que vous faites brûler le beurre, mais à donc bien prendre le temps de faire fondre votre beurre. Et quand il n'y a plus de petites bulles, il est prêt. Vous allez donc rajouter à vos œufs et à votre sucre la farine, la levure et le beurre fondu, bien sûr. Vous avez ce qu'on appelle un appareil. Vous le laissez reposer 10-15 minutes et ensuite vous le mettez dans des petits moules à madeleine. Cuisson, attention, four à 240 degrés à chaleur.
Ouh, tournante.
Et voilà, pendant 5 minutes. Ensuite, on baisse le four à 200 et on laisse les madeleines encore 10 minutes. Elles doivent être bien dorées. Et alors moi, ce que je fais...
Vous ouvrez une petite bouteille.
Ah bon, ça c'est déjà fait depuis longtemps. Mais je fais fondre du chocolat et ensuite je trempe le dos de mes madeleines dans le chocolat.
Et ça fait les madeleines au chocolat avec la pellicule de
chocolat.
Voilà,
et ensuite je laisse refroidir. Et alors le chocolat croquant, la madeleine moelleuse à l'intérieur, je peux en manger un seau.
Bah d'accord.
Un seau. Vous nous enverrez des photos de votre ligne, enfin avant après le confinement, ça va vraiment être très impressionnant. Merci beaucoup Olivier. À demain Olivier Pouls.
Europe 1.
Qui sortira de ce studio la tête haute? Qui brandira dans quelques instants la couronne de chroniqueur du jour? Le moment fatidique du quitte ou double arrive, un moment où chacun autour de cette table est amené à jouer franc jeu. Eva, vous continuez de vous épiler ou vous avez renoncé? Eh oui, franc jeu, c'est tout de suite la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
C'est la fin de notre émission et également l'apothéose de notre compétition. Qui sera élu chroniqueur du jour? Avec le sens du show qu'on lui connaît, Eva le sait, ces derniers instants de l'émission, c'est le moment ou jamais de placer sa meilleure vanne. C'est là que l'impact humoristique est maximal. Alors Eva?
J'ai failli sortir une grosse vanne, mais...
C'est quoi?
J'arrive pas à la formuler correctement pour que ça soit vraiment très drôle.
Ah, grosse alerte donc, pas grave.
Ben non, c'est l'humidité. Elle sait s'arrêter au bon moment. C'est tout.
C'est l'heure du quitte au double. Ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur dossier. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous aujourd'hui et votre ami Jimmy Fallon?
Oh, je veux pas enfoncer mes camarades chroniqueurs, mais Jimmy Fallon, quoi. Enfin, okay. Enfin, voilà. Moi, je veux bien argumenter, mais bon.
Vous vous suffisez à vous-même avec votre ami Jimmy.
Que mes amis ne font guère le poids.
Bon. Axel de Tarlé, sens que vous n'avez pas dit votre dernier mot. Si vous avez avoué quand même en début de chronique que vous l'aviez recyclé.
Non, il a recyclé une phrase.
Écoutez, je vais jouer franc jeu. Comme vous l'avez sûrement remarqué, IKEA est mon nouveau sponsor.
Oui, ça j'ai vu, oui.
Et il est écrit dans mon contrat de sponsoring que j'avais des points bonus si je gagnais la chronique qui parlait d'IKEA. Donc,
tout le monde derrière vous pour encourager pour votre sponsoring.
Voilà.
Anissé Mbida, pourquoi voter pour vous cet après-midi?
Parce que vous êtes tous des professionnels de la radio, donc je suis sûr que vous jubilez tous en secret de pouvoir mettre votre voix plutôt que votre selfie sur les sites de rencontres.
Alain Sirou en duplex avec nous, du Perche. Pourquoi voter pour vous et votre enquête sur
les chaussettes orphelines et les cuillères qui disparaissent,
Alain? Tout simplement parce que ce soir, si vous trouvez une petite cuillère cachée dans une chaussette, vous saurez que les points que vous allez me donner ne tomberont pas dans le triangle des Bermudes des autres chroniqueurs.
Le combo, où était la cuillère dans la chaussette qui manquait. Eh bien, écoutez les amis, je dois voter. C'est le moment de prendre une décision. Je vais quand même voter pour cette chronique qui m'a étonné. Je ne connaissais pas l'existence de cette nouvelle application qui permettait de pécho via la voix. Anissé Mbida, vous avez mon point. Eva Rock.
Jimmy Fallon, forcément, et Jean-Philippe Ballas.
Merci, Eva.
Ouais. Voilà, y a
vu la
qui...
manière dont...
Non, mais Axel qui fait la tête, mais...
Alors, Axel vient de remballer tout son matériel et vient de partir. Et il vient de me postillonner, donc dans la gueule, donc à moins d'un mètre de distance, respectant parfaitement les distances de sécurité. Allez vous asseoir, Axel, vous êtes éliminé.
Ce n'est ni sanitaire ni professionnel.
Découvrons le vote de nos invités.
De Romain.
J'ai oublié. Et les auditeurs. Romain
Cosin, un professionnel de la radio. C'est un professionnel de la radio aussi.
A le droit de vote aussi, Romain. Pour qui votez-vous?
Mathieu, je vais donner mon point au fascinant Alain Sirou.
Alain Sirou qui s'en sort avec un point. Et nos auditeurs, Eva.
Et ils ont voté pour Jimmy Fallon et Jean-Philippe Ballas.
Jean-Philippe Ballas remporte l'équipe et son ballon. Il a le triomphe modeste, Jean-Philippe. Il est là, négligemment appuyé sur son coude.
Jimmy qui m'a envoyé un texto, j'ai pas eu le temps de lui répondre.
Imaginez la joie pour Jimmy Fallon qui a une carrière. Bon, ouais, ça marchotte quoi. Ça marchotte à peu près. Ouais. Et là, en France. Il remporte, c'est lui qui est le sujet d'une chronique qui gagne l'équipée sauvage.
Alors, franchement, il devrait venir comme invité.
Il doit être, à mon avis, au 7e ciel, le Jimmy, si ça arrive à ses oreilles. C'était la 177e journée de l'équipée sauvage. Je remercie mes confinés du jour, Eva Rock, Axel de Tarlé, Anissé Mbida, Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas et Olivier Pouls, Romain Causeur et Christophe Pierrot en régie. L'équipée sauvage revient demain 16h tout de suite. Restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.